Guy de Maupassant, Le Port, 1889. Sorti du Havre le 3 mai 1882 pour un voyage dans les mers de Chine, le 3 mâts carré Notre-Dame-des-Vents rentra au port de Marseille le 8 août 86 après 4 ans de voyage. Son premier chargement déposé dans le port chinois où il se rendait, il avait trouvé sur le champ un fret nouveau pour Buenos Aires et de là avait pris des marchandises pour le Brésil. D'autres traversées, encore des avaries, des réparations, les calmes de plusieurs mois, les coups de vent qui jettent hors la route. Tous les accidents, aventures et mésaventures de mer, enfin, avaient tenu loin de sa patrie ce trois-mâts normand qui revenait à Marseille, le ventre plein de boîtes de fer blanc contenant des conserves d'Amérique. Au départ, il avait à bord, outre le capitaine et le second, 14 matelots, 8 normands et 6 bretons. Au retour, il ne lui restait plus que 5 bretons et 4 normands. Le breton était mort en route, et les 4 normands, disparus en des circonstances diverses, avaient été remplacés par 2 américains, un nègre et un norvégien racolés un soir dans un cabaret de Singapour. Le gros bateau, les voiles carguées, vergues en croix sur sa mâture, traîné par remorqueurs marseillais qui haletaient devant lui, roulant sur un reste de roule, tandis que le calme survenu laissait mourir tout doucement, passa devant le château d'If, puis sous tous les rochers gris de la rade que le soleil couchant couvrait d'une buée rose, et il entra dans le vieux port où sont entassés, flanc contre flanc, le long des quais, tous les navires du monde, pêle-mêle, grands et petits, de toutes formes et de tout gréement, trempant comme une bouillabaisse de bateaux en ce bassin trop restreint, plein d'eau putride, où les coques se frôlent, se frottent, semblent mariner dans un jus de flotte. Notre-Dame-des-Vents prit sa place entre un brick italien et une goélette anglaise qui s'écartèrent pour laisser passer ce camarade. Puis, quand toutes les formalités de la douane et du port eurent été remplies, le capitaine autorisa les 2/3 de son équipage à passer la soirée dehors. La nuit était venue. Marseille s'éclairait. Dans la chaleur de ce soir d'été, un fumet de cuisine à l'ail flottait sur la cité bruyante, pleine de voix, de roulements, de claquements, de gaieté méridionale. Dès qu'ils se sentirent sur le port, les 10 hommes que la mer roulait depuis des mois se mirent en marche tout doucement, avec une hésitation d'être dépaysés, désaccoutumés des villes, 2 par 2 en procession. Ils se balançaient, s'orientaient, flairant les ruelles qui aboutissent au port, enfiévrés par un appétit d'amour qui avait grandi dans leur corps pendant leurs derniers 70 jours de mer. Les Normands marchaient en tête, conduits par Célestin Duclos, un grand gars, fort et malin, qui servait de capitaine aux autres chaque fois qu'ils mettaient pied à terre. Il devinait les bons endroits, inventait les tours de sa façon, et ne s'aventurait pas trop dans les bagarres si fréquentes entre matelots dans les ports. Mais quand il y était pris, il ne reculait et ne redoutait personne. Après quelques hésitations entre toutes les rues obscures qui descendent vers la mer comme des égouts, et dont sortent des odeurs lourdes, une sorte d'haleine de bouge, Célestin se décida pour une espèce de couloir tortueux où brillaient au-dessus des portes des lanternes en saillie portant des numéros énormes sur leurs verres dépolis et colorés. Sous la voûte étroite des entrées, des femmes en tablier, pareilles à des bonnes, assises sur des chaises de paille, se levaient en les voyant venir, faisant 3 pas jusqu'au ruisseau qui séparait la rue en 2, et coupaient la route à cette file d'hommes qui s'avançait lentement, en chantonnant et en ricanant, allumé déjà par le voisinage de ces briseurs de prostituées. Quelquefois, au fond d'un vestibule apparaissait, derrière une seconde porte ouverte soudain et capitonnée de cuir brun, une grosse fille dévêtue, dont les cuisses lourdes et les mollets gras se dessinaient brusquement sous un gousset grossier maillot de coton blanc. Sa jupe courte avait l'air d'une ceinture bouffante, et la chair molle de sa poitrine, de ses épaules et de ses bras faisait une tache rose sur un corsage de velours noir bordé d'un galon d'or. Elle appelait de loin: Venez-vous, joli garçon! Et parfois sortait elle-même pour s'accrocher à l'un d'eux et l'attirer vers sa porte, de toute sa force, cramponnée en lui comme une araignée qui traîne une bête plus grosse qu'elle. L'homme, soulevé par ce contact, résistait mollement, et les autres s'arrêtaient pour regarder, hésitant entre l'envie d'entrer tout de suite et celle de prolonger encore cette promenade appétissante. Puis, quand la femme, après des efforts acharnés, avait attiré le matelot jusqu'au seuil de son logis, où toute la bande allait s'engouffrer derrière lui, Célestin Duclos, qui s'y connaissait en maison, criait soudain: Entre pas là, marchand, c'est pas l'endroit! L'homme, alors, obéissait à cette voix, se dégageait d'une secousse brutale, et les amis se reformaient en bande, poursuivis par les injures immondes de la fille exaspérée, tandis que d'autres femmes, tout le long de la ruelle devant eux, sortant de leurs portes, attirées par le bruit, et lançaient avec des voix enrouées des appels pleins de promesses. Ils allaient donc de plus en plus allumés entre les cajoleries et les séductions annoncées par le chœur des portières d'amour de tout le haut de la rue, et les malédictions ignobles lancées contre eux par le chœur d'en bas, par le chœur méprisé des filles désappointées. De temps en temps, ils rencontraient une autre bande, des soldats qui marchaient avec un bât de fer sur la jambe, des matelots encore, des bourgeois isolés, des employés de commerce. Partout s'ouvraient de nouvelles rues étroites, étoilées de fanaux louches, et ils allaient toujours dans ce labyrinthe de bouge, sur ces pavés gras où se mettaient les eaux putrides, entre ces murs pleins de chair de femme. Enfin Duclos se décida, et s'arrêtant devant une maison d'assez belle apparence, il y fit entrer tout son monde. La fête fut complète. 4 heures durant, les 10 matelots se gorgèrent d'amour et de vin. 6 mois de solde y passèrent. Dans la grande salle du café, ils étaient installés en maîtres, regardant d'un œil malveillant les habitués ordinaires qui s'installaient aux petites tables dans les coins, où une des filles demeurait libre, vêtue en gros baby ou en chanteuse de café-concert, courait les servir puis s'asseyait près d'eux. Chaque homme, en arrivant, avait choisi sa compagne, qu'il garda toute la soirée, car le populaire n'est pas changeant. On avait rapproché 3 tables, et après la première rasade, la procession dédoublée, accrue d'autant de femmes qu'il y avait de mathurins, s'était reformée dans l'escalier. Sur les marges de bois, les 4 pieds de chaque couple sonnèrent longtemps, pendant que s'engouffrait dans la porte étroite qui menait aux chambres ce long défilé d'amoureux. Puis on redescendit pour boire, puis on remonta de nouveau, puis on redescendit encore. Maintenant, presque gris, ils gueulaient. Chacun d'eux, les yeux rouges, sa préférée sur les genoux, chantait ou criait, tapait à coups de poing la table, s'entonnait du vin dans la gorge, lâchait en liberté la brute humaine. Au milieu d'eux, Célestin Duclos, serrant contre lui une grande fille aux joues rouges, à cheval sur ses jambes, la regardait avec ardeur. Moins ivre que les autres, non qu'il eût moins bu, Il avait encore d'autres pensées et plus tendres, cherchant à causer. Les idées le fuyaient un peu, s'en allaient, revenaient et disparaissaient, sans qu'il pût se souvenir au juste de ce qu'il avait voulu dire. Il riait, répétant: pour l'or, v'là longtemps que t'es ici. 6 mois, répondit la fille. Il eut l'air content pour elle, comme si c'eût été une preuve de bonne conduite, et il reprit: Eh, tu aimes cette vie-là? Elle hésita, puis résignée. Bon, si fait, c'est pas plus embêtant qu'autre chose. Être servante ou bien rouleuse, c'est toujours des sales métiers. Il eut l'air d'approuver encore cette vérité. T'es pas d'ici, dit-il. Elle fit non de la tête sans répondre. T'es de loin? Elle fit oui de la même façon. D'où ça? Elle parut chercher, rassembler des souvenirs, puis murmura: De Perpignan. Il fut de nouveau très satisfait et dit: Ah oui! À son tour, elle demanda: Et toi, t'es marin? Oui, ma belle. Tu viens de loin? Oh oui, j'en ai vu des pays, des ports et de tout. T'as fait le tour du monde, peut-être? Je le crois, plutôt 2 fois qu'une. De nouveau, elle parut hésiter, chercher en sa tête une chose oubliée, puis d'une voix un peu différente, plus sérieuse: T'as rencontré beaucoup de navires dans tes voyages? Oh, je te crois, ma belle. T'aurais pas vu Notre-Dame-des-Vents par hasard? Il ricana, mais pas plus tard que l'autre semaine. Elle pâlit, tout le sang quittant ses joues, et demanda: Vrai, bien vrai? Vrai comme je te parle. Tu mens pas, au moins. Il leva la main. Devant le bon Dieu, dit-il. Alors, sais-tu si Célestin Duclos est toujours dessus? Il fut surpris, inquiet, voulant avant de répondre en savoir davantage. Tu le connais? À son tour, elle devint méfiante. Oh, bah moi, non, non, c'est une femme qu'il connaît. Une femme d'ici? Non, d'à côté. Dans la rue, non, dans l'autre. Quelle femme? Mais une femme, donc, une femme comme moi. Et que t'y veux, cette femme? Chétimé, quelque pays. Ils se regardèrent au fond des yeux, pour ses pieds, sentant, devinant que quelque chose de grave allait surgir entre eux. Il reprit: Je peux-tu t'avoir, cette femme? Quoi que tu lui dirais? Oh, je dirais que j'ai vu Célestin Duclos. Il se portait bien, au moins. Comme toi et moi, c'est un gars. Et il se tut encore en rassemblant ses idées, puis, avec lenteur: Où est-ce qu'elle allait, Notre-Dame-des-Vents? Mais à Marseille, donc. Elle ne put réprimer un sursaut. Ben vrai? Ben vrai? Mais tu le connais, le Duclos? Ben oui, je le connais. Elle hésita encore, puis tout doucement: Ben, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Écoutes-tu, il dira: Oh non, non, relais rien. Il la regardait toujours de plus en plus gêné. Enfin, il voulut savoir. Et tu le connais tout, eh? Non, dit-elle. Alors, qu'est-ce que tu lui veux? Elle prit brusquement une résolution, se leva, courut au comptoir où trônait la patronne, saisit un citron qu'elle ouvrit et dont elle fit couler le jus dans un verre, puis elle emplit d'eau pure ce verre et le rapportant. Bois ça, pourquoi? Pour faire passer le vin, je te reparlerai ensuite. Il but docilement, essuya ses lèvres d'un revers de main, puis annonça: Bon, ça y est, je t'écoute. Tu vas me promettre de ne pas t'y compter, que tu m'as vu, ni de qui que ce soit ce que te dirai, il faut jurer. Il leva la main, sournois. Ça, je le jure. Sur le bon Dieu, sur le bon Dieu. Eh ben, tu lui diras que son père est mort, que sa mère est morte, que son frère est mort, tous trois en un mois de fièvre typhoïde en janvier 83, voilà 3 ans et demi. À son tour, il sentit que tout son sang lui remuait dans le corps. Il demeura pendant quelques instants tellement ainsi saisi qu'il ne trouvait rien à répondre. Puis il douta et demanda: T'es sûr? Oh, je suis sûr. Qui te l'a dit? Elle posa les mains sur ses épaules et le regardant au fond des yeux: Tu jures de ne pas bavarder? Oui, je le jure. Je suis sa sœur. Il jeta ce nom malgré lui. Françoise? Elle le contempla de nouveau fixement, puis, soulevée par une épouvante folle, par une horreur profonde, elle murmura tout bas, presque dans sa bouche: Oh, c'est toi, Célestin? Ils ne bougèrent plus, les yeux dans les yeux. Autour d'eux, les camarades hurlaient toujours. Le bruit des verres, des poings, des talons, scandant les refrains et les cris aigus des femmes, se mêlait au vacarme des chants. Il la sentait sur lui, enlacée à lui, chaude et terrifiée, sa sœur. Alors, tout bas, de peur que quelqu'un l'écoutât, de si bas qu'elle-même l'entendit à peine: Malheur, j'avais fait de la belle besogne! Elle eut en une seconde les yeux pleins de larmes et balbutia: C'est-il de ma faute? Mais lui, soudain: Alors, ils sont morts! Ils sont morts! Le Pé, la Mé et le Fré! Les trois en un mois, comme je te l'ai dit. J'ai resté seulement sans rien, comme une larde, vois-tu, puis que je deviens le pharmacien, le médecin et l'enterrement des rois défunts que j'ai payé avec les meubles. Et j'entrais pour lors comme servante chez Maître Capieux, tu sais bien, le boiteux. J'avais 15 ans tout juste à ce moment-là, puisque t'es parti quand j'en avais à peine 14. J'ai fait une faute avec lui. On est si bête quand on est jeune. Puis j'allais comme bonne du notaire, qui m'a aussi débauché, et qui me conduisit au Havre dans une chambre. Bientôt il n'eut point de venue. Il n'est point revenu du tout. J'ai passé 3 jours sans manger. Et puis, ne trouvant pas davantage, je suis entré en maison, comme bien d'autres. Oh, j'en ai vu aussi du pays, moi, et du sale pays, Rouen, Évreux, Lille, Bordeaux, Perpignan, Nice, et puis Marseille, où me v'là. Les femmes, larmes lui sortaient des yeux et du nez, mouillaient ses joues, coulaient dans sa bouche. Elle reprit: Je croyais mort aussi, toi et mon pauvre Célestin. Il dit: Oh, je t'aurais pas reconnu, mais j'étais si petite alors, et te v'là si forte. Mais comment que tu m'as pas reconnu, t'es... Elle eut un geste désespéré. Oh, je vois tant d'hommes qui me semblent tous pareils. Il la regardait toujours au fond des yeux, étreint par une émotion confuse et si forte qu'il avait envie de crier comme un petit enfant qu'on bat. Il la tenait encore dans ses bras, à cheval sur lui, les mains couvertes dans le dos de la fille. Et voilà qu'à force de la regarder, il a reconnu enfin la petite sœur laissée au pays avec tous ceux qu'elle avait vus mourir, elle, pendant qu'il roulait sur les mers. Alors, prenant soudain dans ses grosses pattes la main de cette tête retrouvée, il se mit à l'embrasser comme on embrasse de la chair fraternelle. Puis des sanglots, de grands sanglots d'homme, longs comme des vagues, montèrent dans sa gorge, pareils à des hoquets d'ivresse. Il balbutiait: Et t'en voilà, Françoise, ma petite Françoise! Puis tout à coup, il se leva, se mit à jurer d'une voix formidable, en tapant sur la table un tel coup de poing que les verres culbutés se brisèrent. Puis il fit trois pas, chancela, étendit les bras, tomba sur la face. Il se roulait par terre en criant, en battant le sol de ses quatre membres et en poussant de tels gémissements qu'ils semblaient des râles d'agonie. Tous ses camarades le regardaient en riant. Ben, il est rien sou, dit l'un. Faut le coucher, dit un autre. S'il sort, on va le ficher au bloc. Alors, comme il avait de l'argent dans ses poches, la patronne offrit un lit, et les camarades, ivres d'eux-mêmes à ne pas tenir debout, le hissèrent par l'étroit escalier jusqu'à la chambre de la femme qu'il avait reçue tout à l'heure, et qui demeura sur une chaise au pied de la couche criminelle, en pleurant autant que lui, jusqu'au matin.